Ce matin, nous lisons d'abord dans la parole de Dieu, en Genèse 1, les versets 1 à 5. Pas difficile à trouver, c'est vraiment tout à fait le début de vos Bibles. Et un texte, le récit de la création que vous connaissez presque par cœur. Il est là, j'ai devant moi ici la colombe. Là, je vais lire le texte pour que vous puissiez entendre le même qui est affiché à l'écran. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et la deuxième lecture dans l'Évangile selon Jean, l'ordinateur arrive à me suivre, formidable. Jean 1, les cinq premiers versets et encore un passage que sans doute vous connaissez presque par cœur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et j'ajoute encore verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Voilà, j'ai été plus rapide que l'ordinateur cette fois-ci. Elle n'était pas donnée au début à notre projectionniste. Bien-aimés frères et sœurs. Ah oui, j'ai un bouton quelque part qui traîne dans ma poche. Je dois pousser là-dessus. Voilà, le thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ qui vint les ténèbres. À Genève se trouve un vaste monument appelé le mur des réformateurs, dont vous voyez la photo, où sont mis en évidence Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox, ainsi qu'une inscription qu'on ne voit pas ici sur la photo qui dit « Post tenebras lux » en latin, qui signifie en français « Après les ténèbres, la lumière. » Nous sommes en 2017, 500 ans après l'événement de Luther qui a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Et nous pourrions être tentés d'identifier les ténèbres, après les ténèbres, la lumière, nous pourrions être tentés de voir comme ténèbres le catholicisme pour dire que le protestantisme alors apporte la lumière. Ou nous pourrions dire c'était les prêtres égarés, peu éclairés avant. Et puis il y a eu les grands pasteurs, les pasteurs éclairés qui sont suivis. Après, bien, on a mis une ligne là-dedans. Eh bien, si nous croyons que la ténèbre, d'un côté, c'est le protestantisme, et la lumière, d'autre part, le protestantisme, ce n'est pas cela. Mais les ténèbres, vraiment, dans le sens voulu, c'est le monde qui est sous la domination du péché. Et que la lumière est notre Seigneur Jésus-Christ qui brille dans ce monde. Et regardez bien, en dessous, des pieds des grands réformateurs se trouvent trois lettres en grec, le iota, le eta, sigma, abréviation d'une phrase précieuse pour nous. Dans la première lettre, trois mots, et chaque lettre donne la première lettre du mot, c'est Jésus, notre Sauveur. Et à côté, sur la gauche, sur la droite, se trouvent des flammes de lumière qui rayonnent. Pour dire que c'est le message que Jésus est notre Sauveur, venu pour nous sauver, qui a éclairé notre cœur et qui est la lumière qui brille dans le monde. À côté, vous voyez le sceau de l'église de Genève qui va dans le même sens. L'évangile nous le dit en elle, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et nous voyons dans le texte de l'évangile que Dieu a créé le monde par sa parole, au commencement. Et ce texte, au commencement, rappelle le texte de la Genèse que Dieu dit. Et il dit à 6 reprises, et nous n'avons pas lu tout le texte, et Dieu dit chaque jour de la création. Et quand Dieu parle, sa parole a une conséquence. Et tout ce qui est venu à l'existence, toutes les étoiles les plus éloignées de l'univers, les galaxies, les éléments chimiques, les éléments, les lois de la nature, comme toute forme de vie, animale, végétale, et l'homme, créé à l'image de Dieu, est l'œuvre de la parole de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, révélation de Dieu, ce que l'intelligence, la logique humaine pouvait inviter, c'est que cette parole est devenue chair, que cette parole est notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est celui qui est notre Sauveur, qui est en même temps notre Créateur, celui qui a donné vie dès le début, dès la création, qui nous a donné vie, qui soutient notre vie. Et puisque l'Écriture nous dit, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, Néhémie 9:12, il est clair que Dieu seul est créateur. Alors quand Jésus crée, on voit là clairement la divinité de Jésus-Christ. Et ça, j'aime aussi le dire quand nous parlons d'histoire, que pour la réforme, dès le début, il était très évident que Jésus est le Fils de Dieu, qui n'est pas qu'un prophète au-dessus des autres prophètes, qui n'est pas un surhomme ou la pleine réalisation de l'homme. Pour certains pensent que Jésus est un genre de surhomme, mais non. Il est le Fils unique de Dieu, venu du ciel, réellement homme et en même temps réellement Dieu. Il est cette parole créatrice dès le début. L'alpha homme et Dieu, humain, divin. Et il est présenté ici comme la lumière. Et tout d'abord, nous savons que c'est l'Éternel Dieu qui est notre lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le psaume 27. L'Éternel Yahweh Dieu, le Dieu de gloire, avec son nom de révélation dans le buisson ardent devant Moïse. Ce Dieu-là qui est lumière est Jésus-Christ. Car il dit, je suis la lumière du monde. On voit encore là sa divinité confirmée. Et comme je m'inspire un peu de la réforme, j'ai relu les commentaires de Calvin sur ce passage. Et quand on voit le commentaire de Calvin, il y a 500 ans presque, il dit que cette lumière brille dans notre raison, dans notre entendement. Dieu nous a donné l'intelligence. Et là, nous sommes différents des animaux. Dieu nous a donné l'occasion, la possibilité de le connaître. Sa lumière brille dans notre intelligence pour que nous puissions connaître Dieu. Et pour que nous puissions le reconnaître pour tous ses dons, ça veut dire entrer dans l'adoration. à entrer dans la reconnaissance. Pas seulement savoir que Dieu existe, pas seulement savoir que nous sommes enfants de Dieu, mais aussi lui donner gloire. Quand la lumière brille, cette lumière nous amène sur la voie de l'Évangile, à connaître Dieu comme notre Père, mais nous amène aussi à l'adoration. Calvin parle beaucoup de lumière, une petite nuance que j'aimerais apporter, c'est l'insistance sur la vie. Verset 4, en elle était la vie. Dans la parole est la vie. Et Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Bien-aimé, quel message formidable. Notre Seigneur est venu pour que tu aies la vie, pour que tu l'aies en abondance, pour que la tristesse n'ait pas le dessus, pour que la défaite n'est pas le dernier mot, mais que tu connaisses le bonheur et la grâce dont David parlait déjà il y a 3000 ans. Jésus qui est la lumière. Mais le texte nous dit que la lumière brille dans les ténèbres. Alors il ne s'agit pas des mêmes ténèbres qu'il y avait au moment de la création où il est question du jour et de la nuit. Alors Genèse 1, les ténèbres, ce sont les ténèbres de l'obscurité, de la nuit. Ou quand Jean parle que la lumière a brillé dans les ténèbres, il s'agit du sens spirituel. Nos ténèbres d'homme, cette rupture de la relation avec Dieu, depuis le jardin d'Éden, l'incrédulité d'Adam et Ève à la parole de Dieu, le rejet des commandements de Dieu, mais aussi les conséquences, l'exclusion du jardin d'Éden, la souffrance et la mort, et cette relation qu'Adam et Ève avaient au début avec Dieu, où ils causaient avec lui, où ils entendaient sa voix, où il y avait une communion vraiment proche. Cette communion a été rompue et Dieu est devenu comme un étranger pour Adam et Ève et nous comme leurs héritiers, comme leurs descendants. Nos ténèbres, et ça c'est Calvin qui va le découvrir dans son cheminement de conversion. Ça, c'est remarquable pour Calvin. C'est une différence avec Luther aussi. Quand Calvin commence réellement à lire la parole de Dieu, il est d'abord convaincu par la parole de Dieu de son propre péché. Tandis que Luther, il part déjà d'une conviction de péché, c'est déjà là. Pour Calvin, c'est d'abord en lisant la parole de Dieu, de la sainteté de Dieu, qu'il est convaincu de son propre péché. Au début, il était marqué par l'humanisme, les grands humanistes qu'il lisait de son temps. Et il va connaître la rupture sur un point, ce point théologique, c'est que le problème de l'homme, malgré toutes ses qualités, c'est qu'il est pécheur. Et il est marqué beaucoup par le psaume 51, le verset 7, où David dit, « Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Je suis né dans la faute, même comme enfant. Donc le péché, c'est pas seulement ce que je fais. C'est pas seulement la désobéissance. En Adam, je suis héritier dans ma nature même. Je suis pécheur. Et qui que nous soyons, et même pour le meilleur des hommes d'un point de vue humain, on voit que nous avons un problème en nous. Et c'est ce que Calvin va développer de façon magistrale dans l'institution chrétienne. Quand je lis sur Internet les commentaires catholiques, ils retiennent un point, c'est la prédestination, la double prédestination de Calvin. Je crois que là n'est pas le point le plus important. Je crois vraiment, quand on lit les deux premiers livres, c'est déjà un gros morceau, et là on est au-dessus de 500 pages, mais le gros morceau où il revient, c'est sa prise de conscience de ses propres ténèbres, du péché qu'il est en l'homme, et cela à tous les niveaux. Au niveau des désirs charnels, et Calvin va se mettre dans le coup lui-même. Il va parler de lui-même jusqu'à de sa propre perversité. On voit qu'il vit le texte qu'il lit. À tous les niveaux, le péché nous a atteints dans nos désirs charnels, dans nos pensées, dans notre volonté, dans nos sentiments, dans notre intelligence, à tous les niveaux. Et là, je crois qu'il y a un message pertinent, mais ça demande plusieurs, presque centaines de pages à lire. Mais il aborde ce problème fondamental du péché de l'homme. Et là, il a une analyse en vérité. Et on voit que l'humanisme a amené, plus tard, le siècle des Lumières à considérer l'homme comme étant bon. Et c'est ce que tout le monde croit, que l'homme est bon. Mais alors, comment expliquer que des petits enfants, innocents, comme on dit à l'école, peuvent non seulement se chamailler, mais vous savez que ça va plus loin. Et qu'on est combien de fois étonné de méchanceté qu'on observe parmi même des tout petits enfants. Comment, quand l'homme est tellement bon, expliquer qu'il y a tant de divorces? Faut pas aller chercher loin les guerres et tout cela. Mais rien que chez nous, qu'il y a tellement de difficultés à nous entendre, même dans les églises, à cause de notre péché, à cause de notre corruption. Et là, Calvin a l'art de mettre le point sur un élément essentiel. Auparavant, nous vivions dans les ténèbres. J'étais pécheur. Nous avons tous péché. Il pose le vrai diagnostic. Mais pourquoi? Parce qu'il faut venir au bon remède. C'est ce qui est important. Il n'y a pas longtemps, j'entendais de quelqu'un qui était allé à l'hôpital aux urgences parce qu'il y avait mal au ventre. Un examen a été fait et rien de grave, monsieur, rentrez, prenez quelques dafalgans, ça va passer. 2 jours après, le monsieur était mort. Erreur de diagnostic. D'où l'importance de poser le bon diagnostic. Avec un bon diagnostic, il aura pu être sauvé. Et le vrai diagnostic de la parole de Dieu, c'est que nous sommes tous pécheurs au fond de notre âme et que nous avons besoin de la lumière qui brille. Après les ténèbres, c'est la conversion de Calvin aussi. Par la parole de Dieu, il a découvert les ténèbres en lui-même pour aboutir à la lumière. Est-ce que mon projection suit encore? La lumière brille dans les ténèbres. Et c'est ce qui est arrivé quand Calvin a lu l'Évangile. Il a découvert son péché, mais il a surtout découvert que Jésus est le seul sauveur, fils de Dieu, tout puissant, qui est descendu dans notre situation pour nous rejoindre et pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous amener à vivre dans la lumière. Et on voit comment toute l'Écriture se tient. Pourquoi Jésus naît-il au milieu de la nuit? Quand tout est noir et obscur, pourquoi Jésus meurt-il à la croix au moment des ténèbres? C'est bien aimé parce qu'il veut naître dans nos ténèbres, dans notre vie, de notre cœur, de notre monde, de nos épreuves, là où nous nous trouvons, pour qu'il y brille. Il est venu dans les ténèbres pour les transformer en lumière. Et Calvin dit, avec le texte de Jean, le verset 9, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout d'abord, puisque Jésus existait déjà avant, dit Calvin, c'est même avant la venue de Jésus sur la terre. Déjà avant, sous l'ancienne alliance, il était la lumière du Dieu qui éclairait. Deuxièmement, il dit, il éclaire tout homme. Pas seulement les chrétiens, tout homme. C'est tout homme, donc aussi l'incroyant. Bien-aimé, le Seigneur brille aussi là où vivent les non-croyants. Ils entendent parler de Jésus. Le Seigneur leur a donné une intelligence pour réfléchir. Et j'entendais dans la présidence que certains ont peur de Dieu et fuient Dieu parce que la lumière est là. mais ne l'ont pas accueilli et l'ont fui. Mais ça nous démontre quand nous sommes témoins de Jésus-Christ que nous ne partons jamais de zéro. Le Seigneur nous a précédés. Quand nous témoignons de Jésus-Christ, quelque part le Seigneur a déjà semé quelque chose. Il a déjà brillé d'une façon ou d'une autre. À nous de voir comment. À nous d'être attentifs, à nous de discerner auprès de celui à qui nous nous adressons pour témoigner de Jésus-Christ ce que le Seigneur a déjà semé dans leur vie pour connecter là et aller plus loin. Le texte nous le dit. La véritable lumière qui éclaire tout homme, aussi les non-chrétiens. Beaucoup le rejettent. Mais d'autres l'accueillent. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Et par la foi, par cette conversion que Calvin a vécue, que nous avons vécue, et si tu es encore en recherche, que tu peux vivre, eh bien, quand tu crois en Jésus-Christ, il fait de toi un enfant de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Iota, Eta, Sigma, Jésus, notre Sauveur, Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. C'est ce que Calvin a compris. C'était en l'an 1533. Et quelle vie transformée. Mais on va pas tout dire sur sa vie aujourd'hui. Il y aura... Là, vous mangerez votre repas de midi le soir. Donc, voilà. Mais quelle vie transformée quand cette lumière a brillé, cette lumière de l'Évangile, pour marcher dans la lumière. Et c'est ce que nous sommes maintenant, bien-aimés. Et Jésus le dit, celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je crois que nous sommes nombreux de pouvoir dire « J'ai cru en Jésus-Christ » et depuis ce jour, il est ma lumière, il a éclairé ma vie, il est venu à mon secours. Je sais que mon nom est inscrit dans le ciel là-haut. Vraiment, il brille. Et même dans les jours où tout semble noir, on chante le chant comme un phare dans la nuit. Et le phare ne brille pas tout le temps, il s'éclaire par moments. Ça veut dire il y a des moments d'obscurité. Dans la vie chrétienne, il y a des jours d'obscurité. Et quand nous sommes vraiment dans l'obscurité, à nouveau, le phare dans la nuit, la lumière du Seigneur qui nous rejoint, qui nous donne direction et route. Bien-aimés, quand nous croyons en Jésus-Christ, qu'il est notre lumière, alors peut-il y avoir encore place pour une autre lumière ? Combien de chrétiens ne mangent pas dans deux assiettes, vont encore écouter des prophètes? Mais est-ce vraiment Christ qui est au centre ou est-ce l'homme qui est au centre? Est-ce vraiment la vérité ou s'agit-il de fausses prophéties? Il faudra toujours discerner. Mais ce qui nous amène vraiment à Christ, le vrai prophète, l'envoyé de Dieu, mais Jésus-Christ, mais sa parole au centre, mais l'évangile au centre. Et on ne voit pas le prophète, on voit Jésus. Et combien entre les chrétiens se sont impliqués dans des mouvements d'initiation, ésotériques, franc-maçonnerie, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que ces mouvements peuvent apporter ce que Jésus ne t'a pas apporté? Jésus, qui dit la vérité qui nous sommes, qui pose le bon diagnostic sur notre cœur, qui est là avec nous à tout instant. Nous vivons en sécurité dans sa présence. à qui nous crions et nous savons qu'il répond à notre prière, qu'il vient à notre secours. Il sera là au grand jour devant le trône de Dieu pour nous défendre. Oui, ce que certains mouvements peuvent proposer, c'est une position dans la société. Ça, oui. Ou de l'argent. Ça, on a déjà vu. Mais ne peuvent rien vous apporter dans votre relation à Dieu. Bien-aimés, si Jésus est ta lumière, alors toutes les autres lumières disparaissent. Jésus n'est pas une étoile comme d'autres étoiles, il est le soleil levant. Et devant le soleil levant, les astres disparaissent. Qu'il en soit ainsi pour toi qui grandis dans ta foi. De plus en plus que Jésus grandit, les astres, d'autres approches disparaîtront pour que le nom de Jésus soit élevé. Alors mon frère, ma sœur, toi qui connais Jésus, il brille en toi. Et Jésus dit, tu seras la lumière du monde, pas en vertu de toi-même, mais en vertu de celui qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors bien-aimé, c'est Christ, la lumière du monde, qui est là en moi, qui brille et qui, à travers de moi, brillera dans ce monde. Et que par toi, d'autres viennent à Jésus-Christ. Et que par toi, sa bonté devienne visible. Que par toi, sa compassion, son pardon, sa bonté, son assurance, sa confiance, sa sécurité, son assurance éternelle deviennent réalité pour d'autres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit toujours là ta lumière jusqu'au dernier jour, jusqu'au grand jour. Amen. Oui Seigneur, nous te disons merci. Parce que quelquefois, nous passons par des jours sombres aussi. Et là, tu nous rejoins encore. Et là, tu changes les perspectives. Et nous te disons merci pour ces jours d'épreuve. Parce que là encore, tu veux révéler toute ta gloire. Quand toi seul est notre espérance, notre confiance, malgré les circonstances, quelquefois déprimantes, Seigneur, quand nous regardons les circonstances, nous serions vite dans les ténèbres. Mais Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, l'auteur de notre foi, qui l'amène à sa perfection. Et je te confie, mes frères et sœurs, Seigneur, pour que tu brilles encore et que tu nous amènes plus loin, sur ta voie dans nos vies. Alléluia. Amen.